France Musique. Disque de légende, Lionel Esparza, France Musique.
Avril 1945, Richard Strauss achève ses métamorphoses. Il a 80 ans. L'Allemagne est à genoux. C'est une œuvre crépusculaire de tristesse et de résignation pour un compositeur qui n'avait pas toujours fait preuve de beaucoup de bienveillance envers le genre humain. Mais la destruction des villes de Dresde, Munich et Vienne a rattrapé le vieil homme, comme beaucoup de gens pour qui la guerre n'avait été jusque-là que théorique. C'est une œuvre de fin de vie et même de fin du monde, mais sans colère et presque élégiaque par moments. L'immense Straussien qu'était Herbert von Karajan avait maintes fois joué et enregistré ses métamorphoses. Il les avait même gravées dès 1948 avec le Philharmonique de Vienne. Mais en 1983, il est arrivé lui-même dans la dernière partie de son existence. Il lui faut en donner sa vision ultime. Identification totale entre le compositeur de 80 ans et le chef de 75 qui nous offre ici une méditation intime, presque douce, sur la fin des choses. Voici les métamorphoses de Richard Strauss par Herbert von Karajan et le Philharmonique de Berlin. l'Orchestre Philharmonique de Berlin, enfin ses cordes, 23 de ses cordes, parce qu'il y a 23 cordes. Dans les Métamorphoses de Richard Strauss, c'était Herbert von Karajan qui dirigeait en 1983 pour Deutsche Grammophon, un disque de légende testamentaire à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Et on va essayer de se remettre avec ce qui suit. C'est un combat, mais un combat joyeux. Un petit duel entre musiciens. Capriccio en sol mineur de Georg Friedrich Händel, dit encore 9e toccata, c'était au clavecin Cristiano Gaudio, extrait d'un disque qui vient tout juste de paraître sous le titre Händel versus Scarlatti, un combat, et oui, parce qu'il y a eu un jour de l'année 1709 où le cardinal Pietro Toboni à Rome, Palazzo Corsini, organisait un duel au clavecin entre deux jeunes gens qui étaient sur place à l'époque, très doués l'un et l'autre. 24 ans, ils avaient chacun, puisqu'ils sont nés la même année, ça tombait bien, l'Italien Domenico Scarlatti et l'Allemand Georg Friedrich Händel, deux usages du clavier très différents. Et justement, Cristiano Gaudio arrivait autour de ce duel célèbre, réel, mais sans doute un peu imaginaire aussi, en choisissant des pièces contemporaines des deux compositeurs et en les alternant dans le disque. Le résultat est superbe.
<t'->
Domenico Scarlatti, sonate en ré majeur, Kirkpatrick 53, sous les doigts de Cristiano Gaudio, très beau disque de clavecin qui vient de paraître chez Lancelade. Alors là, je vous parlais de l'année 1709 pour le duel entre Scarlatti et Handel. Eh bien, on va se transporter juste 7 ans après, et passant de Rome à Venise pour entendre un extrait de la Judith triomphante de Vivaldi, oratorio sacré, qui est basé sur le récit biblique célèbre qui nous raconte la victoire de Judith contre Holoferne. C'est l'une des décapitations les plus célèbres de toute l'histoire de l'art. On dit toujours que Louis XIV était amateur d'analogies politiques dans les arts du spectacle, mais il n'était pas le seul, parce que Judith a été commandée par les autorités de la République de Venise pour l'année 1716 et pour célébrer la victoire du chef des armées vénitiennes, un certain Matthias von Schulenburg, qui avait vaincu les Turcs à Corfou quelques semaines auparavant. Comme quoi, ça ne remonte pas à hier. Vivaldi, ici un choix d'Ariane qui a voulu entendre cette ouverture. peu de clavecin qui fait le lien avec ce qui suit dans cette symphonia qui ouvre la Judith triomphante d'Antonio Vivaldi. Ouverture donc, ici jouée par l'orchestre l'Accademia Montis Regalis sous la direction d'Alessandro De Marchi.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Éric Satie, comme quelqu'un qui trompe son monde, même lorsqu'il a l'air d'écrire de la musique rigolote avec des titres impossibles, exemple, avec ce terre à faire fuir, extrait des pièces froides, c'est pourtant déchirant, comme une énigme qui blesse. C'était l'air à faire fuir sous le sous-titre « S'inviter », extrait des pièces froides d'Éric Satie, joué au piano par Anne Kefelec. Dans un genre très différent, voici du même Satie la belle excentrique suite de quatre danses à l'origine pour petit orchestre, finalement mise au piano, une façon de musical un peu parodique. Alors pour la petite histoire, la belle excentrique est une commande de la danseuse d'avant-garde et chorégraphe Elisabeth Toulemont. Elle avait un nom de scène, Cariatis. Sa danse était, semble-t-il, très particulière, très sensuelle. Elle était célèbre aussi, Cariatis, parce que figurez-vous, dans les années 20, elle donnait dans son domicile parisien des soirées orgiaques où Satie, semble-t-il, a été invitée. Lui ne participait pas, mais il semblerait qu'il ait été légèrement voyeur, Satie. C'est ce que racontent les témoins de l'époque. Moi, je n'y étais pas, bien sûr, mais enfin, Satie dans une partouze, ça, on ne l'avait pas vu venir. Thank you. Les quatre pièces de la Belle Excentrique d'Éric Satie, je vous donne les titres parce que quand même ça vaut le déplacement, ça aussi. Grande Ritournelle, Marche Franco-Lunaire, Valse du Mystérieux Baiser dans l'œil et enfin Cancan Grand Mondain. On entendait ici au piano à quatre mains Anne Kefelec et Catherine Collard. Tiens, on va refermer l'émission avec un disque qui a encore failli m'échapper, celui-là aussi. On y reviendrait une autre fois parce que là, on a juste à peine 4 minutes, c'est pour vous faire envie. À la Napolitana, c'est Christina Pluart et l'Arpeggiata qui sont partis à la découverte des musiques napolitaines, aussi bien côté populaire, chanson et danse, que du côté de l'opéra. Alors c'est intéressant parce que plein de chanteurs et chanteuses très sérieux du côté du baroque vont régulièrement retrouver Christina Pluart. Ils savent qu'avec elle, on s'amuse bien, par exemple Céline Sheen, Valère Sabadus ou Zachary Wilder, pour ne citer que. Voici une tarentelle, l'extrait de ce disque. Une tarentelle à la napolitaine, c'est le titre. À la napoletana du dernier disque de Christina Pluart avec les membres de l'Arpeggiata et toute une troupe de chanteuses qui l'ont rejoint pour ce volume. Un album qui vient de paraître sur le label Erato. Un grand merci à Élise Lejeune, Antoine Courtin et Emmanuel Morse-Duncan. Je vous retrouve demain, 15h bien évidemment, et sur le site internet francemusique.fr pour le podcast, la réécouter tous nos programmes. Bonjour Aurélie Moreau.
Bonjour Lionel Esparza.
Il existe des jumeaux de main, paraît-il, mais il paraît qu'il existe aussi des sœurs et des frères de lait. Vous saviez ça?
Oui, vous parlez de Mirella Freni et Luciano Pavarotti.
Eh ben voilà, c'est ça.
Eh ben oui. Eh ben bravo.
Oui, alors, de quel des deux vous parlez aujourd'hui d'ailleurs?
De Mirella Freni, notre Mimi adorée, Mimi de la Bohème. C'était d'ailleurs son rôle fétiche. Voilà, Mirella Freni au programme du Van Beethoven. Je vous souhaite une bonne soirée, Lionel.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.